rêverie au juge romain. Cependant, il n'arrivait pas à se soustraire à l'impression mystérieuse laissée par cet homme qui était différent des autres connus de lui, qui combattaient contre la domination romaine et pour la restauration du royaume d'Israël. Le juge romain interroge sur l'origine de Jésus pour comprendre qui il est vraiment et ce qu'il veut. La question sur le « d'où est-il » de Jésus comme question sur son origine profonde et donc sur sa vraie nature émerge aussi en d'autres points de l'évangile de Jean et est également importante dans les évangiles synoptiques. Chez Jean, comme chez les synoptiques, elle se trouve en un étrange paradoxe. D'un côté, contre Jésus et sa prétention de mission, parle le fait qu'on s'est renseigné de façon précise sur son origine. Il ne vient pas du ciel, du Père d'en haut, comme il le soutient. Jean 8, 23. Non, celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jean 6, 42. Les synoptiques rapportent une discussion très similaire dans la synagogue de Nazareth, le village de Jésus. Jésus avait interprété les paroles de la Sainte Écriture, non d'une manière habituelle, mais avec une autorité qui dépassait les limites de toute interprétation. Il les avait rapportées à lui-même et à sa mission. Luc 4:21. Les auditeurs, bien naturellement, s'effraient de ce rapport avec l'Écriture, de sa prétention à être lui-même le point d'intersection de référence et la clé d'interprétation des paroles sacrées. La frayeur se transforme en opposition. Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josette, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient choqués à son sujet. Marc 6, 3. On sait justement très bien qui est Jésus et d'où il vient, un homme parmi d'autres, un homme comme nous. Sa prétention ne peut être que présomption. Puis on ajoute le fait que Nazareth n'était pas un lieu pour lequel il existait une promesse de ce genre. Jean raconte que Philippe dit à Nathanaël « Celui dont Moïse a écrit dans la loi ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » La réponse de Nathanaël est bien connue. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Jean 1, 45. La normalité de Jésus, l'ouvrier de la province, ne semble sceller aucun mystère. Sa provenance le révèle comme un homme égal à tous les autres. Mais il existe aussi l'argument opposé à l'autorité de Jésus et précisément dans la discussion sur l'aveugle né, guéri, qui a recouvré la vue. Nous savons, nous, que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, Jésus, nous ne savons pas d'où il est. Jean 9, 29. Les Nazaréens avaient dit quelque chose de très semblable après le discours dans la synagogue, avant de disqualifier Jésus reconnu comme quelqu'un de connu et d'égal à eux. D'où cela lui vient-il? Et qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se font par ses mains? Marc 6, 2. Ici encore, la question est « d'où est-il ?» même si ensuite elle est résolue par le renvoi à sa parenté. L'origine de Jésus est à la fois connue et ignorée. Elle est apparemment facile à expliquer, et pourtant elle n'est pas ici traitée de manière exhaustive. À Césarée de Philippe, Jésus interrogera ses disciples en disant Qui suis-je au dire des gens? Mais pour vous, qui suis-je? Marc 8, 27. Qui est Jésus? D'où vient-il? Les deux questions sont inséparables. Le but des quatre évangiles est de répondre à ces questions. Ils ont été écrits justement pour leur donner une réponse. Quand Matthieu commence son évangile par la généalogie de Jésus, il veut dès le début mettre dans la juste lumière la question sur l'origine de Jésus. La généalogie se présente comme une sorte de titre à l'évangile tout entier. Luc, au contraire, a placé la généalogie de Jésus au début de sa vie publique, presque comme une présentation publique de Jésus, pour répondre avec des accentuations différentes à la même question, anticipant ce que l'évangile tout entier développera par la suite. Cherchons maintenant à mieux comprendre l'intention essentielle des deux généalogies. Pour Matthieu, deux noms sont déterminants pour comprendre le « d'où vient-il » de Jésus, Abraham et David. Avec Abraham, après la dispersion de l'humanité à la suite de la construction de la tour de Babel, commence l'histoire de la promesse. Abraham renvoie par anticipation à ce qui doit venir. Celui-ci est pèlerin non seulement du pays de ses origines vers la terre promise, mais il est pèlerin aussi dans le fait de sortir du présent pour s'acheminer vers l'avenir. Toute sa vie renvoie en avant, elle est une dynamique de la marche sur la route de ce qui doit arriver. Avec raison, donc, la lettre aux Hébreux le présente comme « pèlerin de la foi fondée sur la promesse ». C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 10. La promesse pour Abraham se rapporte tout d'abord à son descendant, mais va au-delà. Par lui se béniront toutes les nations de la terre. Genèse 18, 18. Ainsi, dans toute l'histoire qui commence avec Abraham et est dirigée vers Jésus, le regard embrasse l'ensemble. À travers Abraham doit venir une bénédiction pour tous. Donc, dès le début de la généalogie, le regard se tourne vers la conclusion de l'Évangile, où le ressuscité dit à ses disciples « De toutes les nations, faites des disciples. » Matthieu 28, 19. Quoi qu'il en soit, dans l'histoire particulière présentée par la généalogie, est présente, depuis le début, la tension vers la totalité. L'universalité de la mission de Jésus est comprise dans son « d'où vient-il ?». La structure de la généalogie et de l'histoire racontée par elle est cependant déterminée totalement par la figure de David, de ce roi à qui avait été faite la promesse d'un règne éternel. « Ton trône sera affermi à jamais ». 2 Samuel 7, 16. La généalogie que Matthieu propose est modelée sur la base de cette promesse. Elle est structurée en trois groupes de 14 générations, montant d'abord d'Abraham à David, puis descendant de Salomon jusqu'à l'exil babylonien, pour ensuite monter à nouveau jusqu'à Jésus, en qui la promesse atteint son terme. Apparaît alors le roi qui demeurera à jamais, complètement différent cependant de ce qu'on aurait voulu imaginer en référence au modèle de David. Cette articulation est encore plus claire si on se rappelle que les